CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Eh bien oui, t'es la vie du Villefranchois dans le magazine d'actualité, édition de ce 3 mars avec, vous le savez bien, en studio, les HP représentés par Loulou aujourd'hui. Coucou Loulou, et salut. Le retour de Michel Poulard, la librairie oui. La Source.
Michel, notre invité de la librairie à La Source, située rue Alibert. Une librairie, j'appelle tous les auditeurs à pousser la porte de ta librairie, on y retrouve des choses fantastiques sur l'écologie politique et justement on va parler de ça aujourd'hui parce que nous recevons un artiste, guitariste assez illustre qui a joué avec les plus grands, on en parlera aussi, qui s'appelle Hervé Krief et qui viendra en concert au Haut-Parleur le 14 mars et qui sera l'après-midi avec le collectif Réseau Écran Total dont va nous parler Michel, qui seront l'après-midi à la librairie à La Source à partir de 17h.
Je n'en sortirai que par la force des baïonnettes.
Ouais, je vais manger.
Allez. Alors le samedi 14 février, à la librairie à La Source, Hervé Krief est de retour. Il était venu il y a de ça 3 mois à peu près pour parler de son bouquin Internet ou le retour à la bougie. Et là, il vient présenter et débattre avec les personnes intéressées du réseau Écran Total et un petit peu de la place, un petit peu de l'informatique et de la gestion dans notre vie quotidienne, l'influence que ça a dans nos métiers. Et pour ce faire, Écran Total, et Michel va développer aussi, mais c'est une rencontre un petit peu de travailleurs ou pas qui viennent échanger de cette influence du numérique sur leur travail et sur leur quotidien. C'est un peu ça, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y aura plusieurs personnes qui interviendront dans l'après-midi. Outre Hervé, il y aura également Mathieu, qui est éditeur, oui. Responsable des éditions La Lenteur. Et il y aura également Nathalie Fernandez, qui est éleveuse dans le Tarn. Mm-hmm. Donc, Écran Total est un réseau qui est né en 2013, à la suite de la création d'autres collectifs, comme Faut pas pucer, qui est toujours un collectif très actif d'éleveurs en lutte contre le puçage électronique des animaux. Mm-hmm. Également l'appel de Beauchastel, qui était un collectif, qui est toujours un collectif, qui a rassemblé plusieurs centaines de signatures d'enseignants en lutte contre l'école numérique. Donc Écran Total fédère toutes sortes de résistances au niveau national, parce que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui se réunit une fois par an pour des journées nationales. Toutes sortes de résistances donc à l'emprise numérique dans la vie professionnelle, dans la vie quotidienne, dans les rapports avec les administrations, dans les transports, à l'école. Tout ce poids de la tyrannie informatique qui se fait de plus en plus fort, de plus en plus lourd.
Donc ces personnes aux côtés d'Hervé Krief, les gens sont invités pour débattre de ça.
Oui.
C'est une rencontre, c'est pas non plus une séance de dédicace, il n'y a
pas d'objet
ou quoi que ce soit qui soit en promotion ou quoi. C'est vraiment un échange autour de cette problématique.
Une présentation du oui. réseau Écran Total, oui. de ses objectifs, de ses actions. Parce que le réseau Écran Total propose toutes sortes de pistes de réflexion, mais aussi d'actions, d'offensives, de résistance, de refus, voire de désobéissance, puisqu'on en est là, je pense, aujourd'hui.
Oui, Écran Total mène aussi des actions, quelquefois.
Oui, tout récemment, en gare de Toulouse, par exemple, il y avait une manifestation qui rassemblait plus de 80 personnes, dont bon nombre de cheminots présents, pour protester contre la numérisation des guichets en particulier, et du travail en général au sein de la SNCF.
Alors ça, ce sera l'après-midi à La Source, dès 17h. Et Hervé se détachera un petit peu de tout ça pour nous montrer un peu ses talents d'artiste, dès le soir. Il va nous présenter un spectacle. Enfin, il est seul en scène avec sa guitare. Son spectacle s'appelle Le Grand Voyage Cybernétique. Et il le décrit en 7 tableaux. Ce sont 7 chansons d'un répertoire quand même connu pour certaines.
Oui, il y a différents morceaux qui composent ce spectacle, quelques-uns de sa composition, d'autres de Léo Ferré, Boris Vian.
De Boris Vian.
Il y a aussi des textes, des lectures de textes, on pourra entendre du Giono en particulier. Et il y aura aussi quelques moments plus ludiques, plus bouffons, comme il le suggère lui-même. Parce qu'avant d'être l'auteur de ce livre dont le succès ne se dément pas, Internet ou le retour à la bougie, Hervé est avant tout musicien.
Oui.
Il a été longtemps professeur de musique, donc pour l'éducation nationale, dont il a démissionné il y a quelques années, en protestation, justement, face aux contraintes liées à l'usage du numérique à l'école. Donc c'est d'abord un musicien, donc il a beaucoup tourné à travers la France pendant une trentaine d'années. Et il continue encore aujourd'hui, puisque ce nouveau spectacle, il est en train de le représenter pour les premières fois. Là,
il a joué... Dans sa bio, il a joué avec Miles Davis, il a joué aussi, mais avec Nono de Trust. Vraiment, il est
enregistré avec Didi Lockwood, Ray Charles.
Voilà, on reçoit quand même au parleur un musicien confirmé et qui a une sacrée bio, quoi. Je trouve.
Et qui a une forte présence.
Et qui a une forte présence scénique. Voilà, ça c'est donc dans la foulée de la rencontre avec Écran Total le samedi 14 mars. C'est à 21h au parleur, Hervé Krief en concert, qui va nous présenter son tour de chant, ou je sais pas comment le présenter, c'est un concert, quoi, mais...
Il parle de spectacle.
Oui, voilà. Son spectacle s'appelle Le Grand Voyage Cybernétique.
Qui dure une petite heure,
ouais. On va parler aussi de la programmation de cette semaine, parce qu'on a un gros événement aussi samedi. On reçoit Miss Ming. On sera le samedi 7 mars. Miss Ming en concert avec Michael Damour, qui est son guitariste. Miss Ming, ce personnage haut en couleur, qui malgré des difficultés personnelles et des troubles autistiques, a été très très prolifique, a joué dans beaucoup de films de Carverne et de Lépine. Et qui est chanteuse et a écrit des textes à découvrir. Vraiment, c'est un grand moment. On est ce mois-ci, on reçoit autant Hervé Krief est un grand artiste, mais Miss Ming aussi. C'est pas la même génération, ce sont deux choses différentes, mais voilà, à découvrir, qui sont dans ce délire un peu de one man show, enfin un peu seul en scène ou avec un petit peu d'instrumentation. Enfin, c'est voilà, on est dans ce spectacle vivant là sur deux samedis au haut-parleur avec Miss Ming samedi 7 mars et Hervé Krief. Le samedi 14. Et je voulais annoncer aussi un concert organisé par Régis qui aura lieu le vendredi 6 mars avec le petit groupe qui s'appelle K.O.E. Fraîcheur qui ont un accordéon, un triangle, des chants, enfin ça, voilà, un petit groupe qui à la fin du concert propose une scène ouverte où on peut participer avec eux. Ça c'est vendredi 6 mars, K.O.E. Fraîcheur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. J'en oublie parce qu'on a une programmation en mars qui est assez, assez importante.
Jeudi, le repas traditionnel.
Le repas, oui, là, c'est Greg et Jules qui préparent des lasagnes. Et voilà, puis tous les rendez-vous réguliers, hein, ça continue.
On retrouve le programme nourri et fourni pour ce mois de mars sur le www.lesautparleurs.com.
On écoute un morceau d'Hervé Krief qui s'appelle un autre chemin. Mais là, avec un groupe de musique, il n'est pas seul sur cet album.
Non, il n'est pas seul. Oui. C'est un CD qui est paru en 2014.
La musique Hervé Krief que l'on retrouvera donc le 14 mars
à la source avec Écran Total et en concert au haut-parleur.
Merci. La suite du programme, la musique Hervé Krief et Maryse Calvet dans les studios de l'Université Populaire des Savoirs Partagés pour nous parler de ce spectacle littéraire Les Miroirs de la Fontaine, variation sur 13 fables, proposé donc par l'association. C'est tout à l'heure à 15h au Théâtre Municipal de Villefranche de Rouergue, donc si vous écoutez la rediff, vous êtes certainement passé à côté d'un beau spectacle littéraire. Voilà. Allez, belle journée, Zoupela, à bientôt, bientôt Michel. Et à la semaine... on a condensé un petit peu l'actualité parce que élection municipale la semaine prochaine sur notre antenne.
Ni Dieu, ni maître, ni valet. Ne plus se soumettre sans délai. Pour reconstruire un autre monde, cesser de consommer toutes ces choses inutiles, apprendre à s'en passer. ni Dieu, ni maître, ni valet. Ne plus remettre, ni décaler. À plus tard d'être tous ensemble sur un nouveau chemin, puis reprendre nos choix de vie sans attendre demain. Ni Dieu, ni maître, ni télé, il faut l'éteindre et se parler, yeah, yeah, pour retrouver la joie de vie, de s'écouter, inventer des assemblées à l'échelle d'un quartier. Ni Dieu, ni maître, ni palais, ni que, ni reître, ni réprouvé. C'est tous ensemble qu'il faut aller. Notre chance, c'est notre tour. Une nouvelle danse, un nouveau jour. Illumine nos envies de lendemain. Sans pétrole, sans pesticides, décidons enfin de vivre dans nos villages et nos quartiers. Sobriété, équité, nous tendent la main. Un autre chemin.
Moi, ce que j'aime, c'est dire l'université populaire des savoirs partagés.
Exactement.
De nouveaux ateliers, des cours, des conférences.
Puisque l'optique du programme, c'est de centrer ces manifestations sur le monde actuel.
On était dans un autre monde à cette époque-là.
La géographie est devenue une science moderne. Ils peuvent réussir, ils peuvent aussi se tromper.
Et c'est quelqu'un qui pourra vraiment nous éclairer.
Petit retour sur le déroulement de ce café débat.
À 12h et 17h dans le MAG, retrouvez les dernières actualités de l'université des savoirs partagés.
CFM, CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Vous venez de nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité avec, comme annoncé, en studio, Maryse Calvet. Bonjour Maryse.
Bonjour David.
Maryse Calvet aujourd'hui en studio pour nous parler d'un spectacle proposé par l'Université des Savoirs Partagés, habitué de nos studios pour parler des interventions et du programme de conférences et de certains rendez-vous qui nous sont donnés. Aujourd'hui, c'est un spectacle autour des fables de La Fontaine. Évidemment, ça évoque à nous tous un petit quelque chose, c'est un petit retour à l'école. Notre enfance a été bercée par ces fables de La Fontaine. Un spectacle, pourquoi La Fontaine choisie au programme de l'Université des Savoirs Partagés?
Eh bien, comme vous venez de le dire, David, on a tous été bercés par la musique des fables, mais les enfants d'aujourd'hui sont encore bercés par cette musique.
Et c'est incontournable.
Ce fabuliste est encore au programme, et on pourrait dire presque tout au long de la scolarité. Il est au programme du bac 2021, et donc c'est un de nos arguments, c'est-à-dire retrouver des spectacles littéraires qui fassent venir au théâtre des scolaires, mais qui est un retentissement plus large finalement, se dire aussi des œuvres comme les fables de La Fontaine peuvent parler à travers les siècles, à tous les âges, parce que ces petits récits qui semblent parfois enfantins, et c'est pour ça qu'on les apprend dès l'école maternelle parfois, sont en réalité beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît et parlent à tous les âges.
Il en a rédigé 240. Difficile de faire un choix, un tri entre les best-sellers de Jean de La Fontaine et puis ce qu'il y a peut-être un petit peu en marge. Comment s'est organisée la compagnie, peut-être l'œil du silence qui va nous présenter ce spectacle, Les Miroirs de La Fontaine. C'est tout à l'heure à 15h. Donc si vous écoutez la rediffusion de 17h, vous avez loupé un beau spectacle proposé par l'USP. Voilà, c'est ce que je peux dire là, oui, à cet instant aux auditeurs.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui nous a plu dans le spectacle, proposé par Anne Sicot, donc qui est le metteur en scène de l'association, la compagnie L'œil du silence, c'est que elle a choisi donc autour de 13 fables, le sous-titre c'est Variations sur 13 fables de Jean de La Fontaine. Elle a mêlé des fables extrêmement connues comme le corbeau et le renard, comme le loup et l'agneau, avec des fables qui sont beaucoup moins connues et qui finalement développent les propos faciles à reconnaître puisque on les connaît depuis toujours, hein, comme le corbeau et le renard, mais avec les autres fables qui sont moins connues, il y a comme une sorte de développement du thème. Et sur scène, trois comédiens vont aussi utiliser différents moyens, différentes techniques pour montrer que l'approche de cette œuvre est extrêmement théâtrale. Elle est visuelle, sonore et évidemment, comme vous le disiez, très très symbolique, hein, puisque derrière, c'est comme le disait La Fontaine, hein, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Bien sûr que derrière ces animaux. Et pas que des animaux d'ailleurs, hein, puisqu'il utilise, comme il dit, il fait parler tout le monde. Il utilise aussi bien des minéraux, des végétaux, etc. Et même des objets, hein, comme le potolet, par exemple, de Perrette. Il montre que tout est signifiant, tout peut être objet de leçon, tout peut être occasion d'apprentissage. Donc ce qui nous plaît dans l'organisation de ce spectacle, c'est de faire venir un large public et qui prend conscience ainsi qu'on apprend toute la vie et on apprend à travers tous les éléments de la vie.
J'imagine que les textes ont été adaptés de Jean de La Fontaine, rédigés au XVIIe siècle. On parlait peut-être pas de la même manière à cette époque. Les mots ne voulaient peut-être pas dire la même chose.
Oui, alors c'est quand même les textes sont transcrits ou interprétés à la lettre. La mise en scène éclaire le sens. Et effectivement, la langue du XVIIe siècle n'est pas tout à fait la nôtre. Mais ce que nous apprécions aussi dans ce spectacle, c'est que elle soit respectée en tant que telle et que on puisse voir justement sa perpétuité, quoi, finalement. Et son intérêt, se replonger. La langue classique, la langue de La Fontaine, la langue de l'époque classique, c'est une langue qu'on doit continuer à faire vivre. Et ces spectacles-là y contribuent.
Voilà, c'est important qu'il y ait un accompagnement scénique parce que au moindre hoquet qu'il trouve pourrait se traduire aujourd'hui au moindre obstacle qu'il rencontre. Donc, bon, voilà, s'il y a un accompagnement, des fois le texte ça va vite et cette mise en scène portera très certainement les textes de Jean de La Fontaine. Combien de personnes sur scène, donc Anne Sicot, metteur en scène et...
Et trois comédiennes, deux comédiens et une comédienne, donc qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, utilisent tous les éléments de la communication, le chant, le mime, le masque, les silences aussi. Alors j'en profite pour rappeler que le titre, enfin le nom de cette compagnie, c'est L'œil du silence, et Anne Sicot a été la troisième épouse du mime Marceau, et elle a collaboré avec lui à des écoles de mime et une formation, oui, des stages de mime. Et cette compagnie qui s'appelle L'œil du silence montre que, comme je disais, tout peut être moyen de communication. Le silence aussi intervient dans la communication et dans le spectacle. Alors on verra comment, mais je pense en tout cas de façon, c'est un spectacle très poétique.
On va profiter, Maryse Calvet, de vous avoir en studio parce que vous connaissez bien ce poète, moraliste, dramaturge, fabuliste qu'est Jean de La Fontaine, pour nous en dire un petit peu plus sur son parcours, ses premiers écrits.
Oui, alors j'en profite aussi pour rappeler que Jean de La Fontaine est né en 1621, donc nous allons fêter le 400e anniversaire de sa naissance. Et c'est impressionnant de voir comment l'œuvre littéraire est forcément exceptionnelle pour être aussi vivante aujourd'hui, donc presque quatre siècles plus tôt. Alors, La Fontaine n'a pas écrit que des fables, mais il est surtout connu pour ses fables. C'est ce genre littéraire qui lui a permis de passer à la postérité et de façon brillante. Et il a écrit les premiers recueils de ses fables pour le Dauphin. Le Dauphin, c'est le fils de Louis XIV, qui avait guère plus de 6 ans au moment de la publication du premier livre des fables. Et ce premier livre a été vraiment conçu par La Fontaine comme un moyen d'éducation, de transmission. Et il l'était véritablement, et pas que pour des fils de rois, puisqu'il est aujourd'hui moyen d'information, de communication, d'éducation pour chacun de nous.
Outils d'instruction. Un petit peu plus tard, quels ont été peut-être les faits marquants de la vie de Jean de La Fontaine ?
Alors, Jean de La Fontaine a vécu... très peu ou très mal de sa plume. Il a été toute sa vie, on pourrait dire, une sorte de courtisan, en tout cas entretenu par les grands du XVIIe siècle, à commencer par Fouquet. Mais quand Fouquet est tombé en disgrâce, il a eu des difficultés lui aussi, parce que les charges dont il avait hérité de son père ne lui permettaient pas de vivre véritablement. Et il avait la réputation d'être un paresseux, donc quelqu'un qui avait du mal à se tenir à un travail et à vivre uniquement de son talent. On sait bien d'ailleurs qu'au XVIIe siècle, on ne pouvait pas vivre de sa plume, on avait besoin de protection. Il a été le protégé de Madame de la Sablière. Et donc, voilà, il a à la fois dans son œuvre critiqué les privilèges de la cour, critiqué les grands qui vivaient souvent aux dépens des pauvres et des miséreux, mais il a été quand même... protégé, quoi, hein, tout au long de sa vie. Il avait hérité de trois charges de son père, qui était notamment la charge de maître des eaux et forêts. On dit qu'elle lui convenait très bien parce qu'elle lui permettait d'aller rêver seul dans la campagne, observer la nature. Et on le voit dans son œuvre, hein, comment il l'a rendu à la nature. Enfin, cet amour de la nature l'a inspiré. Mais on peut dire qu'il a vécu sur son patrimoine et pas laissé grand chose à sa famille, dont il ne s'est pas beaucoup occupé.
Ben voilà. Il a lui-même rédigé ses fables ou il s'est inspiré ?
Alors, il s'est inspiré. Il dit, dans la dédicace du premier livre, il écrit « Fable mise en vers par Monsieur Jean de La Fontaine ». Tous les propos, ce qu'il appelle l'anecdote, il l'a emprunté aux anciens, notamment Ésope, le plus connu est Ésope, un grec, mais aussi au latin Phèdre, à un indien qui s'appelait Pilpé, qui est moins connu, qui l'a moins inspiré. Il pensait, au XVIIe siècle, on pensait que l'Antiquité avait tout dit et contenait tout, qu'on ne pouvait rien inventer, rien apporter de nouveau. Donc, fort de cette conception, La Fontaine s'est dit, il y a tout chez Ésope ou Phèdre, il suffit de le mettre en musique, il suffit de le mettre en vers, et donc La Fontaine est d'abord et avant tout un versificateur très complexe, qui, sous l'apparence comme ça de la facilité, de la musicalité des vers, est en réalité utilise une métrique très, très complexe et très difficile à analyser.
Les miroirs de La Fontaine proposés par l'Université des Savoirs Partagés tout à l'heure à 15h. On imagine que ça s'adresse aussi aux établissements du Villefranchois, parfois difficile de se libérer en milieu d'après-midi.
Oui, alors... Nous avons contacté effectivement les établissements, nous avons environ 80 lycéens inscrits et on espère bien qu'à ce public de lycéens va s'ajouter tout le public puisque l'heure permet d'y assister et de mélanger tous les publics, on aime bien ça aussi.
L'entrée est à 12 euros, on peut se présenter à partir de 14h30 au théâtre municipal. Donc là, tout à l'heure, si vous nous écoutez et que vous êtes sur la rediffusion du magazine d'actualité de 17h, eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme morale à cette intervention c'est la petite friandise de ce début de semaine et vous regretterez de ne pas y avoir assisté.
Voilà, et l'année prochaine, vous serez plus vigilant.
Merci Maryse Calvert, rendez-vous donc pour cette proposition de l'Université des Savoirs Partagés. Une conférence nous attend également la semaine prochaine, mardi 10. On en parlera très certainement tout prochainement. Merci Maryse Calvert, belle journée, un beau succès pour cette jolie proposition.
Merci,
de l'association.
David. Merci David.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h30, la vie du Villefranchois.